Radio Okapi.
Les informations, Lievin Mbwinga.
Bonsoir à tous. D'abord, l'ossature de ce journal. Plus de 600 civils tués dans le nord Kivu et en Ituri, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Triste bilan ce 19 août, journée mondiale consacrée à l'aide humanitaire. Nous allons découvrir ce bilan macabre avec le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, dans un court instant. Bientôt une cimenterie au Kasaï oriental, elle sera implantée précisément dans le territoire de Katanda. Notez déjà, la pose de la première pierre pour la construction de cette cimenterie intervient cette semaine. Comment la régie des eaux distribue-t-elle l'eau potable à Kalemie en cette période difficile où il y a interruption de courant de la SNEL? Gilbert Kamagala, chef de centre de cette société à Kalemie, donne des explications dans ce journal et vous avez compris, il est notre invité. Je le disais en titre, le monde célèbre ce lundi 19 août la journée de l'aide humanitaire. Dans son message à cette occasion, Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, souligne que cette année, cette commémoration revêt une signification particulière dans le contexte de la République démocratique du Congo en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 enlevés entre janvier et juin de cette année, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Le souvenir de nos deux collègues tués le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire par des groupes de jeunes armés à Butembo est encore vif dans nos esprits, dit-il. Tout de suite, Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, dans cet extrait choisi par Élisée Chikota.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée inquiétante d'attaques de groupes armés contre les populations civiles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Entre janvier et juillet, par exemple, plus de 630 civils ont été tragiquement tués dans les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri et dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu. Malgré la gravité de ces tueries et de ces souffrances, le monde ne s'est pas suffisamment indigné face à cette situation catastrophique. Cette absence d'indignation collective, cette tolérance questionne profondément notre humanité et notre capacité à prévenir et à agir contre la violence systématique qui décime des vies innocentes en République démocratique du Congo. Cette année, le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est « Agir pour l'humanité ». Et c'est un appel à l'action. Nous devons agir pour protéger les populations civiles. Nous devons agir pour protéger les humanitaires contre la violence. Nous devons agir contre l'impunité des auteurs d'attaques contre les humanitaires et contre les civils. Nous devons agir pour la paix. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril les fondamentaux des droits humains, notamment l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse.
Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC. En rapport toujours avec cette journée mondiale consacrée à l'aide humanitaire, notez cette défaillance en Ituri. Des milliers de déplacés n'ont pas encore reçu d'assistance alimentaire depuis plus d'une année dans plusieurs sites de cette province sinistrée, hélas. Conséquence, des cas de décès de malnutrition, surtout chez les enfants et les personnes de troisième âge, sont enregistrés. Celles vivant avec handicap sont aussi touchées dans leur milieu de refuge. Certains responsables de ces sites l'ont dit ce lundi, à l'occasion toujours de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Ils reviennent encore une fois sur une solution durable, le rétablissement de la paix dans leur village d'origine. Pour en savoir plus, suivez ce reportage d'Isaac Raymond.
La province de l'Ituri compte à ces jours environ 1 300 000 déplacés disséminés dans plus de 60 sites, dont 6 sont installés à la périphérie de la ville de Bounia. Aussi de Kigon, c'est depuis avril 2023 qu'ils ont reçu la dernière assistance en vivres. Selon le président du site, au moins 8 déplacés meurent chaque mois de faim et faute de médicaments. Plus de 250 cas de malnutrition sont également enregistrés actuellement dans ce site qui compte environ 14 000 déplacés. Il plaide pour le rétablissement de la paix qui constitue la solution ultime face à ces défis. Papy Francis, responsable d'ici des Kigons, lance un appel au gouvernement.
Depuis tout ce temps-là, vraiment, les espaces sont en train de rester sans ça pour être assisté. Les cas de ministre n'en parlent pas parce que vraiment, c'est au créneau. Donc, ces personnes de troisième âge sont en train de mourir à cascade. Ici, que les personnes vivant avec handicap, ils ne savent pas où aller. Par mois, on atteint 8 personnes cas de décès. On n'a pas les prises à charge médicales. Notre cri de l'âme, c'est au gouvernement d'instaurer la paix sur la tenue de la province de l'Ituri.
La situation humanitaire est également préoccupante dans d'autres sites, notamment Mongwalu, où plus de 22 cas de décès sont signalés depuis avril dernier. Des sources humanitaires indiquent que des efforts sont fournis, malgré que les besoins sont énormes et les difficultés d'accès dans certaines localités occupées par les groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pour clore ce chapitre, sachez que cette journée de l'aide humanitaire est célébrée dans un contexte tout à fait particulier de crise multiforme au Nord Kivu, avec plus de 2,4 millions de déplacés, notamment à la suite de la guerre du M23. Les humanitaires disent devoir en même temps faire face à d'autres difficultés, les épidémies. Et oui, ces agents humanitaires font cet état de lieu à l'occasion des activités portes ouvertes cadrant avec cette célébration. Reportage Bernard Denyang.
Face à ces 2,4 millions de personnes déplacées, le choléra qui affecte déjà plus de 15 000 personnes dans les sites déplacés et maintenant 60 cas confirmés de Mpox, le Nord Kivu, est au centre d'une crise humanitaire sans précédent. La chef du sous-bureau de Ocha au Nord Kivu estime qu'il faudrait une réelle volonté politique pour amorcer une désescalade et améliorer l'accès aux nécessiteux. Madame, merci Magnala.
Avec les trêves, mais aussi les cessez de feu, il y a les diminutions dans les affrontements. Mais c'est pas suffisant. C'est pas tout le monde qui respecte ça aussi. C'est pour continuer à appeler pour l'engagement politique, pour voir vraiment il y a les grands résultats.
Le gouverneur militaire promet à cette occasion tout son accompagnement aux acteurs humanitaires, ainsi qu'aux millions de personnes déplacées ayant le seul souci de retourner chez eux. Général-major Peter Chirmwami.
Tout en réitérant notre engagement à veiller sur la sécurité de toutes les personnes et leurs biens, je réaffirme la collaboration entre les gouvernements provinciaux pour rendre un appui efficace aux milliers de déplacés et communautés affectées qui n'ont qu'un seul rêve, y retour dans leurs milieux respectifs.
À Goma, une série d'activités est prévue durant ces 2 jours pour valoriser le travail des acteurs humanitaires dans la province. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore sur un tout autre chapitre, c'est la rupture du trafic routier entre les villes de Beni et Butembo depuis 2 jours. En cause, un camion transportant des marchandises a endommagé un petit pont situé sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Liakobo, à 8 km de la sortie sud de Beni. Conséquence, une centaine de véhicules, dont des camions de marchandises et de transport en commun, sont bloqués sur place. Guylaine Kassassia nous raconte ce désagrément.
Jusqu'à ce midi, tous les véhicules transportant des marchandises et des passagers entre Beni et Butembo sont restés immobilisés à Liakobo. Un petit pont situé à cet endroit a été endommagé par un gros camion samedi dernier. Un chauffeur présent sur les lieux explique.
Il y a un véhicule qui a cassé ce petit pont. Nous sommes ici depuis samedi à 19h. Tous les gros camions sont bloqués, seules les voitures peuvent dévier. Le camion est toujours coincé dans le caniveau. Il faudrait élargir la route parce que si elle faisait au moins 8 mètres de large, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Mais cette route ne fait que 4 mètres.
Certains passagers craignent pour l'état de leurs marchandises, dont certaines sont périssables. Rose Kavira, commerçante amenée de vivres de Butembo à Beni, elle témoigne.
Nos marchandises risque de pourrir ici parce qu'on ne sait pas combien d'états cela va durer. J'ai de la banane, du sombé, pendant que nos enfants meurent de faim à Butembo. Il faut que cette route soit réhabilitée.
Depuis ce matin, l'entreprise Gerison Construction, chargée de l'entretien de la route Beni-Butembo, est déjà à pied d'œuvre pour réparer les ponts endommagés. La route Beni-Butembo est une voie importante pour l'exportation et l'importation des marchandises vers l'Ouganda. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Et puis cette bonne nouvelle, bientôt une cimenterie au Kasaï oriental, elle sera implantée précisément dans le territoire de Katanda. À cet effet, les responsables de la société Oui Kasaï Cement SAS, qui a gagné le marché auprès du gouvernement central, ont rencontré le gouverneur de province le week-end pour expliquer leur projet. La pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie est prévue cette semaine sur le site, à exploiter. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les travaux d'installation vont se dérouler dans un site riche en calcaire. Selon les études préliminaires, la première phase de production annuelle est estimée à 300 000 tonnes avec une augmentation progressive qui va atteindre 1,2 million de tonnes d'ici 2027. Cette capacité de production permet de réduire d'abord les coûts du ciment sur le marché de Mbujimayi, la dépendance aux importations qui proviennent du Haut-Katanga, de Lualaba et de Kinshasa. La société civile accueille favorablement durablement ce projet car à lui seul, il constitue un apport d'emploi direct évalué à environ 2000 travailleurs permettant d'insuffler un nouvel essor économique au Kasaï oriental. Selon les géologues, le territoire de Katanda dispose des réserves potentielles de calcaire idéales à la fabrication du ciment. L'usine de fabrication des ciments de Katanda sera exploitée par la société Y Kasaï Cement SAS en collaboration avec Golden Construction. Un conteneur d'équipement est déjà sur place dans les territoires de Benin Chimba. D'après certains observateurs, les deux défis à ce projet restent le manque d'énergie électrique et les conflits intercommunautaires dans les territoires de Katanda. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Éducation à présent, à la veille de la rentrée de classe, la Coalition nationale de l'éducation pour tous fait entendre sa voix. La CONEP appelle les parents à dénoncer les gestionnaires d'école qui continuent à exiger certains frais avant la reprise des cours. Son coordonnateur national qui a fait cet appel à Kananga demande également au pouvoir public de sanctionner ceux qui continuent avec ces pratiques interdites. Jacques Chimbalanga, qui indique que chaque enfant doit avoir accès à l'éducation à travers l'école sans obstacle, est clair. Ces pratiques interdites déscolarisent les enfants. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Aux leaders des établissements scolaires, aux leaders des écoles, aussi bien conventionnées que non conventionnées, de faire des efforts substantiels pour lever les obstacles qui empêchent les enfants d'accéder à l'école, notamment les frais de confirmation, réinscription, ainsi de suite. De manière informelle, certains parents sont obligés de ne pas faire inscrire leurs enfants à cause de ces frais-là, alors que c'est prohibé, même au niveau national, il y a même des circulaires qui ont prohibé cette manière de faire aux parents, de dénoncer ce qui ne marche pas dans ce cadre-là. Et c'est comme ça que nous alertons l'autorité de manière à ce que, en cas de persistance de ces cas-là, que des sanctions tombent, que l'autorité comprenne que le fait de ne pas agir expose des milliers d'enfants à la déscolarisation.
Voilà, dans une note publiée le 13 août courant, la ministre d'État à l'Éducation a interdit tout acompte de frais scolaires dans les écoles avant la rentrée scolaire 2023-2024. C'est un rappel. Éducation encore, direction Maniema, cette fois, les chefs d'établissement des écoles conventionnées islamiques sont prêts à accueillir les enfants de 2 septembre prochain. Ils l'ont fait savoir à l'issue des travaux préparatoires de l'année scolaire 2024-2025 ce week-end, un rendez-vous qui a regroupé les chefs d'établissement de ces écoles. Entre-temps, ces responsables d'école formulent quelques recommandations au gouvernement tant provincial que national pour la meilleure prise en charge des enfants congolais. On écoute Ami Sizaïra, préfet des études de l'Institut Juhudi, qui a parlé au nom de tous les participants. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous, chefs d'établissement des écoles conventionnelles islamiques, recommandons au gouvernement ce qui suit, que le gouvernement central construise et réhabilite les écoles pour permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions, que le gouvernement paye les enseignants nouvelles unités afin d'améliorer les conditions sociales professionnelles, que l'inspection provinciale de l'éducation et les gestionnaires multiplient les formations en faveur des enseignants afin de renforcer leurs capacités, que le gouvernement provincial aligne les écoles conventionnées dans son projet zéro école sans tôle au Maniema, que le gouvernement central retire à la Caritas la charge de payer les enseignants des zones à accès difficile et confie cette tâche à la TMB et à la Rao Bank. Et que le gouvernement central autorise le recensement des nouvelles écoles, les dédoublements des classes ou le changement de structure de certaines écoles afin de permettre à tous les enfants de jouir de leurs droits à l'éducation.
Autre nouvelle, lutte contre la pollution sonore à Matadi, des instruments musicaux saisis dans les débuts de boisson de la commune de Nzanza et ses environs. Même les personnes citées comme auteurs de la perturbation de la quiétude de la population sont arrêtées. C'était dans la nuit de dimanche à ce lundi lors de la descente sur terrain de Dominique Nkodiambété, maire de Matadi, appuyé par la police. Nana Pluriche Mambou pour le reportage.
Au cours de cette opération de ratissage, plus de 5 haut-parleurs, des ordinateurs, micros et autres équaliseurs ont été saisis. C'est notamment dans les bars comme Sofia, quartier Belvédère, Panenka et A Suprême situés au cœur de la commune de Nzanza. Au cours de la même opération, plusieurs personnes armées de machettes qui sèment la terreur en braquant les passants au niveau du marché à Bako à Belvédère ont été arrêtées. Pour l'autorité urbaine, cette opération qui a été menée toute la nuit lui a permis de suivre et d'appliquer les instructions de la hiérarchie relative à la lutte contre la pollution sonore et les tapages nocturnes. Dominique Nkodiambeti.
Le ministre national de la justice est revenu sur des nuisances sonores, des tapages nocturnes, des bars, des églises. Au niveau de la province aussi, le gouverneur Grasse insiste pour que la quiétude règne. Nous sommes en train de travailler par rapport à leurs instructions.
La population d'Nzanza salue cette opération qui, selon elle, est une délivrance. Elle invite les maires à la poursuivre. Gilles Tsoukoula.
J'ai félicité l'opération des maires de la ville. Il n'a qu'à continuer à cet élan-là parce que plus il y a moins de nuisances, plus il y a moins de délinquants dans la rue.
Cette opération, Dominique Nkodiambe te dit l'avoir menée conformément au décret numéro 14/012 du 8 mai 2014 portant réglementation de la production sonore en RDC. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, précisément au Ghana, lancement officiel ce 19 août 2024 d'un méga projet contesté de centre pétrolier. C'est un complexe de à 60 milliards de dollars américains qui devrait permettre au pays d'avoir la plus grosse raffinerie de pétrole du continent. De quoi, selon les autorités, rendre leur pays plus indépendant en matière énergétique.
L'invité.
Notre invité est Gilbert Magala, chef de centre de la régie des eaux à Kalemi. Il explique comment sa société distribue l'eau potable à la population de Kalemi en cette période où il y a interruption du courant de la SNEL dans la ville depuis plusieurs jours. On écoute Gilbert Magala dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Monsieur Gilbert Magala, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin Munanga.
C'est depuis lundi que la SNEL a interrompu la desserte en énergie électrique sur toute l'étendue de la ville de Kalemi et ses environs. Or, nous savons tous que la régie des eaux dépend de la SNEL pour distribuer de l'eau potable à la population. Et comment est-ce que la régie des eaux se débrouille pour l'instant?
C'est comme on l'avait dit l'autre fois, la SNEL avait prévu les entretiens de leur machine. Il y a un roulement ou je ne sais pas quoi là qui est en panne. Nous étions par leur communiqué et on avait un problème avec notre groupe électrogène. Nous nous sommes vraiment battus par tous les moyens avec le directeur régional du Grand Katanga et qui s'était déplacé de Lubumbashi jusqu'ici pour ce même problème. Et nous avons pu quand même trouver à réparer notre groupe électrogène. C'est un groupe électrogène de 350 kVA qui a des cas pareils quand il y a des problèmes avec la SNEL et nous arrivons quand même à tourner avec notre groupe pour essayer d'alimenter à la population de l'eau potable.
Comment est-ce que cela se passe? Est-ce que les groupes tournent 24 heures sur 24 ou bien il y a des interruptions?
Oh, monsieur Paulin, c'est pas facile parce que c'est un groupe de 350 kVA qui nous consomme 50 litres de gazole par heure. Alors, vous comprenez que s'il faut tourner pendant 10 heures ou plus de 10 heures, il faut avoir au moins 500 litres par jour. Cela ne suffit pas. Normalement, il nous faut vraiment du carburant en grande quantité pour tourner beaucoup d'heures. C'est ce qui fait que vous allez comprendre que même tout de suite là, on a essayé de se débrouiller avec un peu de carburant que nous avons alimenté notre groupe et on est en train de fonctionner juste pour quelques heures. Et on n'assure pas toute la ville, mais pendant les 5 heures qu'on va tourner, il y a la partie basse qui aura de l'eau.
Et partie basse, c'est-à-dire?
C'est la partie de la ville jusqu'au niveau point Kichanga, Kainda, industriel, Dave, Lumumba, avec d'autres petits quartiers qui sont dans la partie basse. Parce que la partie haute, c'est la cité. Avec la cité, la capacité de notre machine ne peut pas faire tourner toutes les machines qui sont au captage et qui sont au refoulement. Ça a une capacité de faire tourner que deux machines, deux groupes motopompes qui sont au captage et un groupe motopompe de 300 mètres cubes heure au niveau du refoulement. C'est ce qui nous permet quand même d'arroser d'abord la partie basse.
Donc on peut dire que pratiquement vous avez instauré un système de délestage. Aujourd'hui c'est tel quartier et demain tel autre quartier qui sera desservi en eau potable.
Ça dépendra du moyen du carburant. C'est à cette occasion ici même que je peux demander à tous ceux qui trouvent qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets maintenant là, d'en faire vraiment une provision.
Le manque d'eau de la régie des eaux aura beaucoup de conséquences, notamment les problèmes de maladies d'origine hydrique. Avez-vous aussi parlé avec certains partenaires qui œuvrent dans ce secteur?
Bon, au fait, ça, c'est pas un travail de la régie des eaux. Nous avons fait les communiqués, acquis des droits, et il y a des partenaires de la santé qui sont passés. Nous avons parlé avec eux pour les problèmes de choléra qui, vous savez très bien que la ville de Calémy, dans peu de temps, tout le monde qui descend vers les lacs pour s'approvisionner en eau, c'est de l'eau qui n'est pas potable, et ça va vraiment faire des problèmes de santé. Nous les avons informés et nous attendons jusqu'à ce qu'on va arriver au 10e jour. On ne sait pas, c'est la technique. Ça peut arriver où on dépasse les 10 jours et ça devient un problème. Parce qu'effectivement, nous, on ne saura pas répondre aux besoins vraiment de la population sans qu'il y ait du carburant dans notre groupe électrogène.
Pendant ce temps, comment se fera la facturation? Parce qu'il y aura une dizaine de jours qui ne sera pas pratiquement consommée normalement par vos abonnés.
Oui, effectivement, parce que déjà, nous sommes au mois d'août. La facturation du mois de juillet a été consommée en entièreté. Et ça, nous allons distribuer les factures, pas de problème. Mais pour la préparation de la facturation du mois d'août, nous allons tenir compte des consommations. Parce que s'il y a 10 jours où on n'a pas fonctionné en d'autres parties, les consommateurs vont les remarquer sur les compteurs. Et quand nous allons faire le prélèvement des index, nous allons constater effectivement qu'il y aura baisse parce qu'on n'a pas donné de l'eau pendant 10 jours.
Monsieur Gilbert Magala, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à Martin Sebujangwe, à Pelé Kipela Mondo, à Junior Kamunga et à Polydor Basonga.